Dans le premier trimestre de l'année 2006 est publiée une expertise collective réalisée par l'INSERM chez l'enfant de moins de 36 mois afin de repérer les signes annonciateurs de la délinquance dans le but d'une thérapeutique du désordre social. C'est dans ce contexte qu'est édité au Seuil, en janvier 2006, un ouvrage d'une toute autre teneur. Loin d'illustrer la mort annoncée de la psychanalyse dans certains livres, ce livre témoigne du chemin que l'on peut faire avec une psychanalyse au service des parents et des enfants afin de devenir des humains vivants. Ce livre est signé du psychanalyste également jésuite Denis Vasse. Il a été réalisé avec l'équipe du Jardin Couvert. Son titre « Né de l'homme et de la femme, l'enfant », son sous-titre « Chronique d'une structure d'Olto. Surgit au cœur d'une société assez bouleversée, ce livre pose la grande question, qu'est-ce donc que l'homme ? Denis Vasse, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Marie-Josée d'Orazio Clermont,
bonjour.
Voilà, merci aussi à vous d'être associée à cette rencontre. Alors, pouvez-vous nous expliquer le sous-titre de ce livre, Chronique d'une structure d'Olto ?
Alors, qu'est-ce qu'une structure d'Olto ? D'Olto, il y a des années, a initié une expérience dans laquelle nous nous sommes inscrits comme héritiers de ce qu'elle avait initié, c'est-à-dire pouvoir ouvrir un lieu qui est avant tout un lieu d'accueil dans le sens le plus large du terme, c'est-à-dire un lieu d'accueil réservé aux petits enfants de 0 à 4 ans, c'est-à-dire vraiment des enfants dès la naissance et même nous recevons aussi des femmes enceintes, et jusqu'à l'âge de 4 ans, qui est l'âge de la socialisation, des premiers apprentissages où ils ont besoin d'autre chose, de plus structuré. Ces petits enfants sont toujours reçus avec leurs parents. L'idée de Françoise Dolto, c'était que ce qui existait, comme les crèches, les garderies, c'était formidable. C'était un mot qu'elle avait souvent à la bouche. Elle disait que l'école maternelle en France était une grande trouvaille. Et elle disait que ce qu'elle voyait surgir, c'était des difficultés nées du fait que cet apprentissage de mise en société des tout-petits était rendu difficile pour certains par le fait de la séparation. C'est-à-dire qu'on avait droit à une vie en société, mais séparée de papa et maman. Et elle disait, c'est trop précoce. Et elle disait, c'est bien pour les parents d'accompagner ce chemin-là. Et c'est ce que nous faisons.
Et ça s'appelle le Jardin Couvert.
Alors à Lyon, ça s'appelle le Jardin Couvert, puisque François Dolto ne voulait pas une fédération de ces lieux-là, mais voulait que chaque équipe ait une expérience neuve, nouvelle et dynamique d'une équipe qui veut cet endroit-là.
Alors, qui accueille les enfants, Denis Vasse ?
Eh bien, nous sommes actuellement 4 accueillants par jour. Et parmi ces 4 accueillants, il y a nécessairement un ou une psychanalyste et un homme. Oui. Voilà, cet accueil se fait avec ces 4 accueillants qui changent tous les jours. Parce qu'on ne peut pas vivre de travailler au Jardin Couvert. Ce serait une vie assez pauvre, d'ailleurs.
Je crois.
Et ce qui est important, c'est que ces accueillants travaillent tous les mois ensemble sur des textes, des vignettes, ce qu'on appelle des vignettes, et qui sont ceux qui caractérisent le livre qui a été publié.
C'est-à-dire, vous racontez la présence de telle maman avec son enfant et le comportement qui vous a attiré.
Nous racontons de manière assez subjective ce qui s'est passé pour nous, disons en favorisant non pas la pure anecdote vis-à-vis de quoi on a une distance trop grande, mais ce qui concerne la manière dont la structure est en jeu dans tout dialogue. Et c'est-à-dire à un niveau de profondeur qui n'est pas forcément psychologique, qui n'est pas non plus moral, mais qui est ce que Freud nous a enseigné.
Oui.
C'est-à-dire la manière dont on peut se repérer assez vite, la manière dont fonctionne chez les enfants, l'appareil psychique avec ses pulsions, son désir et ses articulations différentes. Donc, en travaillant sur les textes, que nous appelons aussi des textes théoriques, ces vignettes, nous faisons une espèce de rapport entre la pratique concrète d'une rencontre et sa théorisation. Autrement dit, cela nous permet de lire à la lumière de la connaissance que nous avons de plus en plus et qui est une connaissance finalement, non seulement culturelle, mais anthropologique, c'est-à-dire qui concerne l'homme en tant qu'homme, c'est-à-dire toute l'humanité, et qui, même si elle est à améliorer, est désormais, avec Freud et avec la manière dont la psychanalyse est entrée dans le monde, et même si il y a des choses à corriger, et vraiment inévitable. On assiste là à une révolution copernicienne, et entendre quelqu'un parler à la lumière de la grille qui tient compte de la projection de l'inconscient, de la libido, de la manière dont on se fixe sur les objets et qu'ils sont médiateurs vis-à-vis d'autres ou pas, et vraiment très importante et passe dans l'ordre de ce qu'est la connaissance humaine aujourd'hui.
Dialogue, Marie-Françoise Tinel.
Alors, c'est vrai que on se rend compte qu'il y a dans cette rencontre que vous avez au jardin couvert avec les mamans et les enfants qui sont là, on se rend compte que il y a une écoute et une parole donc qui s'échange, qui permet que une transformation extraordinaire puisse se faire dans la relation de la maman avec son enfant.
Oui, et cette transformation, vous voyez bien qu'elle n'est pas induite par celui qui parle ou par celui qui reçoit, mais qu'elle est le mouvement même de la vie qui, dans la mesure où justement la vie, c'est l'acte du don de la vie, c'est ce qui nous informe, et dans la mesure où vous voyez bien que ce n'est pas la conformité à un discours tout fait et répété ou répétitif, mais justement l'attention.
Oui, la présence écoutante, c'est fondamental.
À la vie en nous, et qu'est-ce que fait la vie dans l'homme ? Et il n'y a que dans l'homme qu'elle le fait. Eh bien, figurez-vous, elle parle.
On va revenir là-dessus parce que c'est fondamental. Avant, peut-être quand même un mot sur ce lieu qui est le jardin couvert, car dans votre livre, donc Né de l'homme et de la femme, l'enfant, dans ce livre, vous dites très très souvent, ah, ce lieu, il est extraordinaire finalement, parce qu'il permet, dites-vous, un transfert paternel. Vous pouvez expliquer qui va expliquer, Denis Vasse peut-être.
Ce qui est le terme qui est consacré et qui est retenu par Françoise Dolto, c'est le transfert sur le lieu.
Oui.
Alors, que veut dire transfert sur le lieu ? Ça veut dire que le transfert classique d'une analyse, c'est ce qui se joue de la remise en scène de tout ce qui nous habite inconsciemment quand on parle avec quelqu'un et avec quelqu'un qu'on ne voit pas. C'est la ritualisation de l'analyse, n'est-ce pas ? Et qui permet justement à l'analyste d'entendre, voire de repérer ce que l'analysant ne sait pas, c'est-à-dire comment se reproduit, quand il s'adresse à l'analyste qu'il ne voit pas, ce qui est à l'œuvre dans la production fantasmatique à l'intérieur de lui et qui s'adresse à la mère, au père, ou je ne sais pas, à une personnalité qui va être découverte et c'était complètement oublié. Et c'est à la lumière de cette espèce de connaissance qui rouvre sur la vie, justement, que se fait la vérité d'une interprétation.
Alors ici, dans le jardin couvert, vous n'êtes donc pas dans une situation où il y a l'analyste et la personne sur le divan qui ne voit pas l'analyste, c'est autre chose. Alors
c'est
ce lieu
chose.
Joue
Alors,
ce rôle.
Ça s'appelle transfert sur le lieu. Pourquoi transfert sur le lieu ? C'est que quand il y a une espèce de répétition des venues de quelqu'un, d'un enfant avec son adulte tutélaire, eh bien, et c'est très sensible, il suffit d'avoir un peu de patience parce que ça revient, eh bien, vous vous rendez compte que va se trouver dans ce lieu, s'il y a une présence qui accueille, c'est-à-dire s'il est un endroit qui reçoit, c'est-à-dire si un endroit qui est une maison, un endroit où il y a une présence, eh bien, se rejoue forcément ce qui est à l'œuvre en nous et dans les enfants, et qui a affaire à leur histoire particulière propre, dans leurs fantasmes, dans leurs habitudes, qui est ce qui est c'est ce que nous sommes en tant qu'analystes appelés à lire. Mais nous pouvons le lire avec une légèreté qui ne nécessite pas la mise en route d'une analyse qui devient très précise, n'est-ce pas, mais qui au contraire va permettre d'interpréter, de se risquer, et, si on se trompe, à pas à interpréter, mais à signifier comment il s'agit de la particularité dans une colère d'enfant, par exemple, comment on peut repérer la manière dont il est coincé dans ce rapport à la fois érotique et violent avec un adulte. Et donc de pouvoir... voilà, c'est tout. Et ça peut se voir assez facilement quand on a cette pratique.
Et c'est vrai aussi que vous insistez sur le fait qu'il y a des petites règles de fonctionnement dans ce lieu et donc qu'il y a de l'interdit et donc ça renvoie à la notion de loi. Et là, c'est révélateur sûrement de quelque chose.
Oui, qui sont du côté sociologique ou extérieur ridicules.
Oui, mais mettre son tablier quand on va toucher l'eau.
Mettre son tablier quand on touche à l'eau.
Ça peut donner lieu à des réactions vives des mamans.
Tout à fait.
C'est extraordinaire.
Mais justement, dans la mesure même où, se faisant au jardin couvert, dans une référence à nous qui demandons ça, sans savoir pourquoi, mais simplement, ça fait une règle, un interdit, qui permet à minima d'avoir une structure. Qu'est-ce que c'est qu'une structure? C'est quoi? C'est une manière de vivre de la vie en respectant la différence de ce que permet la vie. Il n'y a pas de vie, ni politique, ni sociale, ni affective, sans différenciation. Donc vous voyez bien que l'unité de notre vie est référée à la différence des différents mouvements qui nous habitent et des différentes personnes ou des différents objets.
Denis Vas, finalement, vous dites souvent que l'histoire et la parole ont un lien fondamental. Vous pouvez nous expliquer un petit peu ? L'histoire de l'individu, de celui qui parle.
L'histoire, et oui, parce que d'une certaine manière, la vie de l'homme, c'est le temps de sa parole. C'est une chair qui parle. Et il faut aller jusqu'au point où si ça ne parle pas, ce n'est pas chair. Donc ça n'a pas la particularité de cet accomplissement où c'est dans la chair que nous faisons l'expérience de l'unité du corps, nos membres.
Nous sommes un être de chair.
Nos membres, la différence de nos membres, c'est notre corps. Et en même temps, où nous sommes un être de chair qui le sait dans la mesure où il a une unité dont il peut parler que dans la mesure où il s'unit, où il est en union avec celui auquel il parle, c'est-à-dire au sujet. C'est-à-dire, voyez bien que la parole est constamment, quand elle est vraie, contient l'unité du lien qui nous sépare. Vous comprenez ?
Oui.
Et que ceci est la chair.
Cette rencontre
signifie l'unité de la chair. Alors, voyez bien combien c'est paradoxal, l'unité de la chair. On ne sait pas ce qu'est la chair, si ce n'est que c'est la chair humaine. et que vous voyez bien que cette chair-là, c'est, si on prend une autre catégorie, c'est l'esprit même, c'est-à-dire ce qui fait vivre la chair. Et c'est l'histoire et l'expérience que nous avons de la naissance à la mort d'un corps de chair qui habite la chair, d'un être qui habite une chair et qui fait l'expérience de l'unité du genre humain d'une certaine manière, mais à la lumière justement de la communion dans laquelle il se réalise en tant qu'être de chair, et en même temps, il ne s'en réalise que de dénoncer constamment les obstacles qui y sont.
Voilà, c'est ça, c'est ça.
Alors, là, on ne peut enlever ni l'un ni l'autre.
Alors là, j'ai l'impression qu'on se trouve en direction de votre titre, qui n'est pas du tout dans l'air du temps, si l'on peut dire. Né de l'homme et de la femme, l'enfant.
Oui.
Il me semble, donc, vous dites, j'étais sensible à cela, que finalement, quand on vient d'avoir un enfant, on réévoque sa propre histoire, et donc on se retrouve pris dans cette unité, cette union de différence.
Le n'est pas juste. Justement, la plupart du temps, notre propre naissance et notre propre histoire est réévoquée sans que nous le sachions. C'est-à-dire que nous nous contentons dans la colère, la dépression ou la méchanceté de l'analyse psychologique actuelle que nous faisons. Mais justement, il n'y a personne, parce que ça ne peut se faire que dans la parole, pour que ce qui nous arrive soit référé à ce qui nous est arrivé comme fondation dans la parole d'un être cher, d'un parler-être, comme dit Lacan, n'est-ce pas ? Et c'est la grande différence entre la psychologie et la psychanalyse, c'est que la psychologie se contente d'une analyse factuelle, classificatrice. L'analyse, c'est toujours lire ce qui m'arrive maintenant à la lumière de ce qui m'est arrivé et qui me constitue comme lumière de la parole.
Et donc, par cette parole qui surgit dans la rencontre, on peut faire apparaître les résistances, les douleurs, les brisures, les blessures que l'on reproduit sans le savoir.
Ou qu'on ne veut pas reproduire,
qui
apparaît dans les résistances.
Oui, la notion de résistance est fondamentale.
Est fondamentale.
Vous le dites que ce lieu qu'est le jardin couvert permet de faire apparaître
Mais
les résistances.
Pourquoi elle est fondamentale ? Parce que, et Freud le dit lui-même, il n'y a de transfert en vérité que là où il y a résistance. Vous comprenez ? Et c'est toujours pareil. Il n'y a de grâce, de surgissement de la vie, si on prenait une autre manière de dire, que là où il y a traversée du péché, traversée de ce qui met obstacle à l'amour.
Dialogue des auteurs et des acteurs de notre société.
Ce regard que vous avez sur l'homme est tout à fait opposé à ce qui est en vogue aujourd'hui. On dit aujourd'hui tout ça est sans importance. Je peux louer un utérus, je peux acheter du sperme. Denis Vasse, que répondez-vous à cela ?
Quand cela arrive au jardin couvert, parce que ça arrive, la question c'est d'entendre ça sans être scandalisé, parce que le scandale nous empêche d'entendre ce dont il s'agit en vérité. Se laisser scandaliser par ce qui arrive, c'est de l'ordre de la de la jouissance. Et ça entretient.
On se fait plaisir
à
réagir,
à être scandalisé.
Voilà, il y a différents.
C'est comme la colère.
Pour
beaucoup de gens, se mettre en colère, c'est prouver que j'ai raison.
Oui, voilà.
Eh bien, je crois que justement, là est la question, c'est-à-dire que on va, au lieu de discuter, de vouloir convaincre, on va dire, eh bien, mais sans même chercher une transition, mais qu'est-ce qui vous est arrivé quand vous étiez petite ? Et simplement, cette question-là suffit à la fois pour détourner, et forcément, ce qui arrive, c'est ce qui est lié à cette expérience, mais qui n'est pas conçu. C'est ce qui arrive, c'est ce que Freud appelle l'association des idées inconscientes. Et on se met à parler de, et puis tout à coup, la maman vous dit, ah ben mince, mais finalement, il s'est passé la même chose avec mon frère. Quand je suis né. Vous comprenez ?
Tout à fait.
Et c'est la possibilité, non pas de faire une analyse,
c'est d'offrir
mais
à
de
l'autre.
Permettre que soit réalisé dans un espace de la présence qui est bienveillant et qui n'est pas, comparatif,
qui
n'est pas surtout comparatif. Le plus dur, c'est de faire sortir les parents de la comparaison pour qu'ils se mettent à parler de leurs enfants.
Il n'est pas aussi bien que ceci, il est bien mieux qu'un tel.
Voilà.
Ils sont toujours mieux, nos enfants, bien sûr.
Oui, enfin,
non, ou bien au contraire,
quand
c'est
ils sont toujours mieux, c'est que ça commence déjà à être plus mal.
Oui.
Vous comprenez?
Oui, oui,
pourquoi,
oui.
Pourquoi auriez-vous besoin de vous persuader qu'il est mieux?
Oui, oui, tout à fait. Oui, merci. Et là, vous évoquez cette difficulté à être jardinier, comme vous dites, dans le jardin couvert, où on sent bien dans ce livre, c'est ça aussi qui est intéressant, c'est que c'est très humain, parce que vous êtes vous-même aux prises avec vos propres résistances et votre propre histoire. Et il ne faut pas vous laisser aller à cela.
Alors je crois que c'est justement en vous écoutant, je me disais, voilà, c'est comme ça finalement que l'on a appris le métier de jardinier, parce que pour nous aussi ça s'est étalé sur le temps et sur les réunions et sur les textes qui font le lit de ce livre. Ce livre est fait de textes que nous avons travaillés pendant 10 ans
et qui sont l'histoire des gens qui nous ont rencontrés.
C'est pas l'histoire des gens parce que c'est pas anecdotique.
Oui.
C'est l'histoire de nous au travail. Pour apprendre justement à ne pas être nous dans la projection, mais pouvoir recevoir tranquillement les projections, les provocations, les colères, les tristesses et aussi les joies des familles, et de pouvoir à cet endroit-là rester parlant, c'est-à-dire faire ce que Denis disait, c'est-à-dire ouvrir l'espace d'une écoute à une souffrance qui quelquefois est très petite. Et c'est justement ça qui est merveilleux dans ce lieu-là. Les gens disent, ça marche, comment ça se fait que ça marche? Mais parce qu'on est dans ce lieu extrêmement précis et précieux du début de la vie, dans lequel, pour l'enfant, les choses vont justement pas partir dans la vrille de la névrose ou dans la vrille du refus et de l'opposition avec les parents. Et en même temps, donc, on va leur éviter tout ce parcours difficile à pouvoir être entendu tout petit. Mais en même temps, dans ce lieu très sensible de l'arrivée d'un enfant dans une famille qui réorganise tellement la famille, d'ailleurs, que quelquefois elle l'a fait exploser, dans ce lieu-là, on peut... Avec toujours un étonnement, réactiver en particulier pour la mère, mais aussi pour le père, des choses extrêmement archaïques et anciennes, de leur propre histoire qui va se rejouer à plein dans ce lieu-là.
Et souvent sans qu'ils le sachent.
Oui.
Sans qu'ils le sachent. Vous voyez bien que toute résistance est précieuse parce que nous avons à la laisser s'ouvrir pour qu'elle révèle ce qu'elle cache. C'est ça la résistance, c'est ça. C'est pour ça qu'elle est plutôt du côté, on pourrait dire classiquement, d'un mensonge. Mais en même temps, vous voyez bien que pour qu'une résistance apparaisse, il faut qu'elle se dise.
Oui. Alors, pour terminer cette émission, on n'a pas dit le quart du tiers de ce que j'avais envie de vous entendre dire, mais donc il faut lire ce livre « Né de l'homme et de la femme, l'enfant » de Denis Vasse au Seuil. C'est un livre qui n'est pas difficile à lire dans la mesure où il y a beaucoup de personnes qui ont écrit et il y a des niveaux de lecture très différents, et ce qu'on n'a pas compris dans un article, on le comprendra par la suite. Et on est sûr qu'on... Parce que ça se recoupe beaucoup, il y a une chronique au jour le jour, et puis il y a aussi des thèmes qui sont pris. Oui, Denis Vasse.
Le problème n'est pas de comprendre ce livre, c'est de l'entendre.
Voilà, merci, ça c'est la belle parole.
Et ce livre prend un premier livre qui avait été fait pendant les 10 premières années du Jardin couvert, qui s'appelle « Se tenir debout et marcher », donc qui est le travail de nos 10 premières années, celui-ci et celui des 10 suivantes.
Et alors, comment, à quel endroit se trouve le jardin couvert et comment y va-t-on? Parce que j'ai compris que ça ne s'adresse pas à des personnes qui sont envoyées parce qu'il y a un problème psychologique bien repéré. Expliquez-nous.
Tout le monde peut y aller. Il suffit d'avoir un enfant de 0 à 4 ans. puisque ça s'arrête à partir des 4 ans. L'adresse, c'est 12 rue Docteur Auguste Lacroix, dans le 3e arrondissement, c'est-à-dire dans ce qu'on appelle à Lyon la Guillotière.
Oui,
c'est tout près du métro Saxe-Gambetta. Et on est ouvert tous les après-midi, jamais le matin, de 14h30 à 18h30, y compris le samedi après-midi, ce qui est très intéressant pour les parents qui travaillent, pour les papas, qui peuvent venir le samedi après-midi.
Je vous remercie beaucoup, Denis Vasse, Marie-Josée, d'Orazio Clermont. Merci.